De nombreux fidèles rassemblés pour assister à la messe des Rameaux à une semaine des célébrations de Pâques. Reportage en début de journal. L'avenir institutionnel au cœur de plusieurs rendez-vous la semaine prochaine. À Paris, l'Assemblée nationale examinera le projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Et mardi, une mobilisation en faveur du dégel du corps électoral se déroulera devant le Haut-Commissariat. À Paris, la Bank of America, visée par une tentative d'attentat, un engin explosif artisanal avait été déposé devant l'établissement. En Israël, 12 personnes ont été blessées dans le centre du pays après l'impact d'un missile iranien. Une réunion est prévue demain entre plusieurs ministres des Affaires étrangères pour discuter de l'issue de la guerre au Moyen-Orient. Le sport, la Formule 1 avec la troisième manche du championnat du monde qui se dispute ce week-end au Japon. Nous reviendrons également sur les résultats de cette 20e journée de Top 14 en rugby. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est une date importante aujourd'hui pour les chrétiens. Nous sommes le dimanche des Rameaux qui marque l'entrée de Jésus à Jérusalem. De nombreux fidèles ont célébré leur foi ce matin un peu partout en Nouvelle-Calédonie. Charlotte Coulson.
C'est aujourd'hui la fin du carême et le début de la semaine sainte. Une semaine qui s'achèvera à la nuit de Pâques avant la résurrection du Christ. Pendant 6 jours, des célébrations vont prendre place pour honorer le souvenir de sa vie. Les croyants du territoire se sont donné rendez-vous à l'église ce matin à la cathédrale de Nouméa. C'est Monseigneur Sione Poé, l'archevêque de Nouméa, qui a présidé la messe des Rameaux.
C'est le début de la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ, où il y a 40 jours, donc nous avons toute la communauté chrétienne a fait son entrée solennelle pour justement se préparer spirituellement à travers la prière, le jeûne, la solidarité à vivre pleinement cette semaine sainte. C'est toujours une grande joie ressentie en union avec tous les chrétiens qui composent le diocèse. Les rivalités, la jalousie, le péché, la souffrance, tout ça Jésus a porté. Pour qui ? Pour nous. Donc oui, nous sommes appelés à revoir un peu notre vie de tous les jours. Nous traversons des moments difficiles, oui. Et nous sommes invités à mourir à nous-mêmes et à ressusciter avec le Christ.
Et pourquoi les rameaux ? Eh bien, c'est avec des branches vertes que les fidèles ont salué Jésus lors de son entrée à Jérusalem à Dodan. Des rameaux, il y en avait ce matin à la cathédrale. Ils ont été bénis par l'archevêque de Nouméa. Les chrétiens tiennent à les garder chez eux jusque l'année prochaine.
C'est le rameau qu'on met dans notre chambre et c'est béni déjà par le Monseigneur. C'est important, il faut avoir la foi.
Mais c'est important pour ma vie, c'est la passion du Christ. Voilà mon petit rameau.
Qu'est-ce que vous allez en faire ?
Mais je vais ramener à la maison.
On est venu célébrer les rameaux. Bah, je sais qu'on prend des branches.
C'est où Jésus il est arrivé là-bas, Jérusalem.
On est content parce que Jésus est arrivé.
C'est ça, vivre la foi, vivre ensemble.
Et c'est donc aujourd'hui que commence la semaine sainte. Pâques sera célébrée dimanche prochain, le 5 avril.
L'actualité calédonienne à Paris, vous le savez, c'est le mercredi 1er avril prochain que le projet de réforme constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie doit être examiné par les députés à l'Assemblée nationale. Le texte reste sous la menace d'un rejet et il est désormais visé par des milliers d'amendements qui ont été déposés ce samedi. Michael Juneski.
Oui, plus de 3000 amendements, en effet, qui ont été déposés, une large partie par LFI, la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, ainsi que le groupe communiste. 3000 amendements donc, alors que l'examen du texte est prévu pour durer 3 jours. Selon l'AFP, l'entourage de Sébastien Lecornu assure que tout est sur la table pour trouver un compromis sur le dossier calédonien. On ne passera pas en force, mais nous ne pouvons plus attendre indéfiniment, assure-t-on encore dans l'entourage du Premier ministre, selon l'agence France Presse, qui se dit prêt aussi à considérer une consultation de la population dédiée de l'examen parlementaire demandé par des parties calédoniennes. Tout est sur la table pour avancer. Fin de citation.
Toujours au sujet des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, les loyalistes annoncent aujourd'hui qu'ils soutiennent la mobilisation annoncée mardi prochain en faveur du dégel du corps électoral.
Les loyalistes qui ont publié aujourd'hui un communiqué, je cite, « La Nouvelle-Calédonie est à un moment décisif de son histoire. Aujourd'hui, la gauche parlementaire refuse de donner la parole aux Calédoniens. Ce qui se joue à Paris dépasse largement un simple débat politique. C'est un véritable choix de société. Et de poursuivre, les loyalistes soutiennent pleinement la mobilisation portée par l'association Un cœur, une voix. Ainsi, nous appelons tous les Calédoniens à se rassembler lors de la mobilisation citoyenne ce mardi 31 mars à midi devant le Haut Commissariat. Fin de citation.
Le bilan des élections municipales et l'avenir de la réforme constitutionnelle au menu du magazine Transparence. Et Charlotte Coulson, c'est Sonia Baquès qui était hier midi l'invitée d'Elisabeth Noir.
Et l'un des constats à l'issue des deux tours de scrutin, c'est le succès des listes soutenues par les loyalistes, avec un carton plein dans les communes de l'agglomération, à Nouméa, mais aussi à Dimbéa, au Mont-d'Or et à Païta. La présidente de la province sud et chef de file des loyalistes y voit une volonté d'apaisement.
Je pense qu'il y avait vraiment un message post-émeute, puisqu'en fait c'est la première élection réellement post-émeute, il y avait eu les législatives pendant les émeutes, de dire on veut un message clair, on veut envoyer un message pour dire qu'on ne veut pas de la violence d'une part, et d'autre part qu'on la condamne et on apporte et on mettra en œuvre plus de sécurité pour les Calédoniens. Donc je pense qu'il y a ce message-là. Il y avait évidemment un message également sur Bougival, puisque alors c'était pas forcément notre volonté d'en faire un référendum pour ou contre Bougival, mais ça a été annoncé par le FLNKS de dire que ce sera un référendum pour ou contre Bougival.
Et Sonia Baquès estime que c'est la clarté et l'union des listes loyalistes qui ont fait le succès des candidats, mais elle se défend de toute radicalité.
Aucun de nos candidats n'a tenu de discours dur. Alors je comprends la difficulté de ceux qui perdent et d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, mais je crois simplement qu'il y a eu un message de clarté. On a été limpide d'une part dans nos prises de position pour condamner la violence, pour proposer des choses pour apporter de la paix et de la sécurité aux Calédoniens. Et ensuite, il y a aussi une valorisation de l'union dans le camp non-indépendantiste. C'est-à-dire que concrètement, tous ceux qui ont été en dehors de l'union ont été sanctionnés. Je crois que la situation en Nouvelle-Calédonie est sur le plan économique et sur le plan sociétal et sur le plan électoral nous impose d'être unis. Et je pense que tous ceux qui n'ont pas fait cet effort d'union, finalement, ont été sanctionnés.
Et du résultat des municipales, Sonia Baquès retient une nécessité d'union pour les élections provinciales, quelles qu'aient pu être les concurrences dans les élections municipales. Et même si ce scrutin n'était pas un référendum pour ou contre Bougival, elle affirme que les chiffres parlent d'eux-mêmes et que les partisans de Bougival sont largement majoritaires au sortir de ces élections. Elle en tire également des conséquences dans le camp indépendantiste.
L'écart entre l'UNI et l'UC se restreint à l'avantage de l'UNI, c'est-à-dire que l'UNI rattrape l'écart de voix qu'il y a entre l'UC et l'UNI, se réduit au bénéfice de l'UNI. Et ça, je pense que c'est un message qui est important, parce que c'est aussi un message de dire que dans le camp indépendantiste, en tout cas c'est comme ça qu'on le reçoit, il n'y a pas de prime à la violence. Et on constate d'ailleurs qu'il y a pas mal de communes dans lesquelles Christian Théin est allé lui-même faire campagne, dans lesquelles finalement le résultat est le moins bon pour le FLNKS.
La chef de file des loyalistes rappelle aussi que les élections municipales ont été un scrutin très politique et elle relève que les électeurs ont eu de la mémoire.
D'abord, on dit souvent les électeurs n'ont pas de mémoire. Ils ont eu de la mémoire. Ils se sont rappelés de ce qui s'est passé au sénatorial. Ils se sont rappelés de qui a trahi le camp loyaliste, qui a permis d'avoir l'élection de Robert Rowy, qui est quand même le plus radical, on l'a vu pendant les négociations de Bougival, le plus radical d'entre tous, et pourtant on n'avait pas que des tendres, qu'ils l'ont fait élire, et les électeurs n'ont pas oublié. Les électeurs n'ont pas oublié les gens qui ont été absents pendant les émeutes. Ils n'ont pas oublié les gens qui ont voté l'indépendance association proposée par Manuel Valls. Je pense que c'est important de retenir ça, parce qu'il y en a qui ont cru qu'on pouvait faire des choses et puis qu'on allait oublier, on allait effacer tout ça et aller aux élections en étant vierge de tout ce qu'on avait fait avant. Bah non, ça n'existe pas.
Sonia Baquès a aussi été interrogée sur le projet de loi constitutionnelle qui vient d'être rejeté par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Elle affirme que même si c'est mal engagé, ce n'est pas plié.
Non, c'est pas plié parce que la commission ne rend qu'un avis, donc c'est indicatif. Mais objectivement, quand la commission donne un avis défavorable, c'est assez mal engagé pour la séance publique. Donc évidemment, on aurait préféré l'inverse. Mais les choses ne sont pas pliées parce qu'il y a en ce moment des discussions au plus haut niveau de l'État, le président de la République, le Premier ministre, qui ont pris le dossier avec les présidents de chambre, avec les chefs de groupe des différents mouvements politiques nationaux, pour essayer de voir comment on en sort. Il y a plusieurs options, évidemment. Il y a le fait qu'on arrive à convaincre une majorité à l'Assemblée de finalement voter pour ce texte, et du coup, il irait au Congrès de Versailles et finirait son chemin. Encore une fois, c'est assez mal engagé, donc on ne va pas considérer que c'est la solution la plus probable. Si effectivement ce texte est rejeté en séance publique, là aussi, il y a encore plusieurs options. Il y a l'option de dire, ok, le texte est rejeté tel quel, mais on doit poser la question aux Calédoniens. Et donc on en revient à une option qui avait été envisagée un temps puis mise de côté parce que les socialistes ne la souhaitaient pas, qui est de consulter les Calédoniens. Est-ce qu'on peut obtenir une adhésion du Rassemblement National, par exemple, sur la consultation des Calédoniens ?
Et il existe deux autres options qui prennent en compte directement la modification du corps électoral.
Ensuite, il y a la volonté claire du Premier ministre et du Président de la République de dire on ne peut pas aller aux élections avec un corps électoral gelé. D'une part parce que d'un point de vue démocratique, c'est insupportable, mais d'autre part parce que c'est la victoire de la violence. C'est-à-dire que ceux qui ont tout cassé le 13 mai dernier pour obtenir le non-dégel du corps électoral, en allant aux élections avec un corps électoral gelé, c'est leur dire en fait, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait. Donc ça, c'est parfaitement inacceptable. Et je pense que le Président de la République en est conscient. Donc il y a une option dans laquelle il remet sur la table directement à Versailles le texte qui a été accepté à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui a fait l'objet des actions du 13 mai. Donc il a la possibilité de dire...
Qui a été suspendu en juin.
Qui a été simplement suspendu, donc qui pourrait être redéposé à Versailles. Et puis il y a une des options intermédiaires où on se met d'accord sur un corps électoral partiellement ouvert. Moi, je suis totalement opposée à ce qu'on n'inscrive que les natifs parce qu'il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et qui méritent aujourd'hui de voter. Et puis il y a l'option où il ne se passe rien et où on doit aller aux élections avec un corps électoral gelé, ce qui pour nous est totalement inacceptable.
Sonia Baquès qui évoque également la situation économique et la reprise de PRNC.
Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera aussi rediffusée ce soir dans son intégralité juste après notre édition de 17h45. La mise en place des exécutifs municipaux se poursuit après les élections qui se déroulaient les 15 et 22 mars dernier. Nouméa sera la 33e et dernière commune à organiser son conseil municipal ce dimanche. Sonia Lagarde sera reconduite dans ses fonctions de maire pour un troisième mandat consécutif. Le conseil municipal est convoqué à 16h dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville, un événement qui sera ouvert au grand public. L'actualité aérienne, Air Calédonie annonce la reprise progressive des vols avec l'île des Pins à compter de demain, lundi 30 mars. Dès demain matin, un avion partira de la Tontouta à 9h40 pour atterrir sur l'île à 10h20. L'appareil repartira ensuite de l'île des Pins à 10h50 pour une arrivée prévue à 11h30 sur la Grande Terre. La compagnie aérienne annonce que le programme sera ajusté dans les prochains jours selon la demande. Je rappelle que le collectif des usagers de l'île des Pins avait annoncé cesser le blocage de son aérodrome vendredi après des discussions avec le gouvernement et la province sud. Les aérodromes des îles Loyauté, eux, sont toujours bloqués. Dans le reste de l'actualité, le salon Habitat Déco 2026 continue jusqu'à ce soir. Il a pris ses quartiers vendredi à Coëcara, l'occasion notamment pour le grand public de se renseigner sur de nouvelles formes d'habitat de plus en plus prisées. Le reportage de Michael Juneski.
Je m'appelle Jean-Marc, la société c'est la société MSMR. Je propose une ligne de bungalows partant sur des modules de 18 mètres carrés qu'on peut assembler. Et notre activité c'est les vis de fondation. C'est une solution qui est écologique, rapide et qui demande peu d'investissement.
Beaucoup de gens qui regardent, c'est peut-être révélateur.
Exactement, on essaye de toucher un petit peu tout le monde. Alors ça peut être de la première habitation, effectivement on vient d'acheter un terrain, on n'a peut-être pas les moyens de construire une grande maison. Donc dans un premier temps, on peut mettre un petit bungalow. Ça évite de payer un autre loyer. Et puis au moins, on est propriétaire, on reste propriétaire du bungalow.
Bruno, de la société Écologie. On est constructeur de villas individuelles bioclimatiques. Le principe, c'est de construire avec l'environnement, l'orientation du bâtiment, l'isolation, beaucoup d'espaces traversants, beaucoup de jalousies. Tout ça fait qu'on arrive à avoir des maisons bien pensées, bien vivre confortablement dans nos constructions.
Un reportage signé Michael Juneski. Le salon de l'habitat fermera ses portes à 17h ce soir. Il est midi 14. Avant de marquer une première pause, je vous rappelle que la métropole est passée à l'heure d'été. À midi pour nous, les horloges ont avancé d'une heure dans l'Hexagone. En conséquence, le décalage horaire est désormais de plus 9h. Cela a peu de répercussions pour nous, mais pensez-y dans vos contacts téléphoniques avec la métropole. Un décalage horaire qui provoque également de légères modifications sur notre antenne dans la diffusion de certains rendez-vous d'Europe 1.
Continuons à parler aux vivants. Les 27, 28 et 29 mars, courez au Théâtre de Lille pour applaudir « Voleur de pardon », la comédie sociale mise en scène par Pacifique et compagnie et Isabelle de Haas. Une quête initiatique pleine d'espoir sur la rédemption et l'importance des racines pour se libérer du passé. « Voleur de pardon », c'est trois dates au Théâtre de Lille. Réservation sur ticket.nc.
Le Tiki Fest débarque pour sa première édition en Nouvelle-Calédonie. Samedi 4 avril, l'Arène du Sud se transforme en festival international avec un line-up exceptionnel. Le rappeur emblématique Aurel San, le DJ explosif de Major Lazer, Walshy Fire, et aussi Shelley et les DJL et Mister T. Billetterie, ticketpacific.nc et dans les magasins Auchan, Quai Ferry, Auteuil et Connay. Un événement SA Production, producteur d'émotions.
Entrepreneur, porteur de projet, vous souhaitez créer, développer, transmettre votre entreprise ou financer vos projets? Rendez-vous à la CCI pour la semaine de l'entrepreneuriat du 31 mars au 2 avril. 3 jours pour structurer vos projets et obtenir des conseils concrets, échanger avec des experts, inspirez-vous de témoignages, participez à des mini-conférences et repartez avec des solutions adaptées. Programme complet et inscription sur www.cci.nc.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Lana Colombo.
En métropole, un drame évité de peu à Paris ce week-end. Un homme a tenté de faire exploser un engin explosif artisanal devant un bâtiment de la Bank of America dans le 8e arrondissement de la capitale. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'affaire. Tôt ce matin pour nous, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est exprimé à ce sujet. Il a établi un lien entre l'attentat déjoué et la situation au Moyen-Orient. Mathis Lang pour Europe 1.
Oui, le ministre de l'Intérieur voit dans cette action des similitudes avec d'autres menées dans certains pays européens, aux Pays-Bas par exemple, des opérations menées par un groupuscule dont les revendications faisaient référence au conflit, poursuit le ministre. Cette nuit, vers 3h30 du matin, un individu dépose un engin explosif artisanal au pied de la banque dans le 8e arrondissement. Il s'agit d'un bidon transparent de 5 litres rempli d'un liquide, vraisemblablement un hydrocarbure, scotché autour, un système de mise à feu et une charge explosive. Un pétard d'environ 650 grammes de poudre. Alors que l'homme était sur le point d'allumer le dispositif avec un briquet, une patrouille de la BAC s'arrête à son niveau et l'en empêche. Il est interpellé, tandis qu'un autre individu qui l'accompagnait prend la fuite. Le suspect interpellé serait un mineur de 17 ans, né au Sénégal et domicilié en Seine-Saint-Denis. Au policier, il dit avoir été déposé sur place par un homme et avoir été recruté en amont sur le réseau social Snapchat pour réaliser cette opération en échange de la somme de 600 euros.
Sur le front de la guerre, l'armée israélienne a annoncé avoir intensifié ses frappes contre les industries militaires iraniennes. Plusieurs explosions ont été entendues ces dernières heures à Téhéran. L'Iran qui riposte en ciblant l'État hébreu, mais aussi les pays du Golfe. En Arabie Saoudite, 12 soldats américains ont été blessés un peu plus tôt dans une frappe iranienne visant une base militaire des États-Unis. L'Arabie Saoudite qui doit participer dès demain à une réunion avec plusieurs de ses alliés. Il s'agit d'une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères saoudiens, turcs, égyptiens et pakistanais. Les explications de Wilfried de Villers.
Oui, rendez-vous fixé à Islamabad, la capitale pakistanaise. Sur la table, un dossier principal, bien sûr, la guerre au Moyen-Orient et les moyens de réduire les tensions dans la région et de mettre fin à la paralysie du détroit d'Ormuz. Si aucun belligérant ne participe à ce mini-sommet, ni l'Iran, ni Israël et les États-Unis, il n'en reste pas moins essentiel pour que les alliés régionaux adoptent une ligne commune, comme le détaille David Rigoulet-Rose, chercheur à l'IFAS.
Il y a l'idée de faire le bilan de ces 4 semaines de guerre et d'essayer d'élaborer des perspectives de sortie de crise qui pourraient être confirmées ou pas, compte tenu des contacts d'abord démentis, puis finalement implicitement confirmés via le Pakistan.
Il y a des contacts entre Islamabad, Téhéran et Washington. Le Pakistan qui entretient des liens tant avec l'Iran qu'avec les États-Unis et plusieurs pays du Golfe. Il joue un rôle de médiateur ces derniers jours.
Il faut rappeler qu'Islamabad a une frontière commune avec l'Iran, donc est directement intéressé, d'abord sur le plan énergétique, parce qu'il y a une grande dépendance d'Islamabad. Il y a une question sécuritaire, et il se trouve que Islamabad est aussi un soutien des Américains. Aujourd'hui, les Pakistanais se retrouvent engagés militairement contre les talibans. Donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir un réalignement aux côtés des États-Unis.
Et c'est d'ailleurs par l'intermédiaire du Pakistan que les États-Unis ont transmis leur plan en 15 points à l'Iran, même si le régime a refusé la proposition.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Un mot de la visite du pape dans la principauté de Monaco, visite inédite et historique. Le souverain pontife a donné une messe au stade Louis II. 15 000 fidèles y ont assisté et ils ont pu écouter le message de paix délivré par Léon XIV. « Nous habituons pas au fracas des armes », a dit le souverain pontife lors de son homélie.
L'histoire de Jésus résume en effet le destin de chacune de nous, à commencer par les plus petits et les opprimés. Encore aujourd'hui, combien de calculs sont faits dans le monde pour tuer des innocents? Cependant, face à l'insistance du mal, la justice éternelle de Dieu se dresse. Chaque vie brisée est une blessure infligée au corps du Christ. Ne nous habituons pas à fracas des armes. aux images des guerres. La paix n'est pas un simple équilibre des forces.
Le souverain pontife Léon XIV en visite à Monaco la nuit dernière pour nous. Midi 21, seconde pause dans ce journal avant de voir tout le sport.
Chérie, vérifions si tu peux fêter tes Pâques au centre commercial Hyper Upaïta.
Vas-y.
Samedi 4 avril de 15h à 17h, il sera possible de participer à...
des ateliers créatifs.
Et de 17h à 18h, ce sera...
la grande chasse aux œufs.
Et le lundi 6 avril, il y aura une course à l'œuf de...
10h à 11h.
Et en plus, sur Facebook...
il y a un jeu de Pâques pour gagner des paniers garnis d'œufs en chocolat.
Et tout ça, c'est...
gratuit.
C'est trop fort. Rendez-vous le samedi 4 et le lundi 6 avril au centre commercial Hyper Upaïta pour fêter Pâques. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Un événement en partenariat avec votre magasin King.
Le rappel des airbags Takata concerne une grande majorité des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru, ce message vous concerne. En effet, le groupe automobile CPH informe ses clients qu'une campagne de rappel concernant des airbags de la marque Takata est toujours en cours. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule Subaru mis en circulation entre 2004 et 2014, modèle Impreza, Forester, Legacy Outback ou Tribeca, votre véhicule est peut-être concerné. Réalisé exclusivement au village automobile au PK4 à Nouméa, le remplacement des airbags Takata défectueux est entièrement gratuit, avec le prêt d'un véhicule relais offert. Comment vérifier si votre véhicule fait partie du rappel? Le groupe CPH a créé un site spécial pour cela. Rendez-vous sur cph-campagne-de-rappel-takata.nc et saisissez votre numéro de châssis pour obtenir une réponse immédiate. Tapez cph-campagne-de-rappel-takata.nc. Si vous êtes concerné, prenez rendez-vous aussitôt via le site ou contactez notre atelier agréé par téléphone au 41 44 66 ou par email à rvairbags@cph.nc. Groupe CPH, toujours à vos côtés pour votre sécurité.
La fin de votre journal, le sport avec Léana Colombo.
Et ouvrons cette page sport avec de la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
De la Formule 1 donc, avec l'un des circuits les plus appréciés par les pilotes, Suzuka au Japon, terrain de jeu du troisième rendez-vous de la saison, et les qualifications ont été relativement favorables aux Mercedes. Christopher Filoc pour Europe 1.
Oui, les Mercedes confirment leur domination après avoir été il y a 15 jours le plus jeune poleman de l'histoire de la discipline, Kimi Antonelli, récidive. De quoi satisfaire l'Italien de 19 ans.
Yeah, it was good pole position, felt good in the car, felt good with the track and of course there's still work to do. Was good and really happy with that.
Et il partira devant son coéquipier, l'actuel leader du championnat, George Russell. Mercedes domine donc et derrière, eh bien, ce sera la bataille entre l'équipe championne du monde, McLaren et Ferrari. L'Australien Oscar Piastri, qui n'a pas encore effectué un tour de Grand Prix cette saison après ses abandons en Australie et en Chine, partira troisième. Charles Leclerc, quatrième. Et le Monégasque, avec sa Ferrari, est capable de prendre des départs plus rapides que la concurrence, comme il l'explique au micro de Canal+.
On a une voiture qui est plutôt bonne au départ. J'espère gagner quelques positions. En course, on est sûrement un petit peu mieux, surtout comparé au McLaren.
Enfin, les meilleurs des autres, eh bien, ce sont nos deux Français, Pierre Gasly et Isaac Hadjar, partiront respectivement 7 et 8e.
Et la course est prévue cet après-midi. Le départ sera donné à 16h pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques, encore avec le Grand Prix des États-Unis de MotoGP, Michael Juneski.
Oui, et les premières sensations lors de la Sprint Race ce matin. Jorge Martin qui s'est imposé, tandis que Marco Bezzecchi et Marc Marquez ont tous les deux chuté. Jorge Martin l'a donc emporté au guidon de son Aprilia devant la Ducati de Francesco Bagnaia et la KTM de Pedro Acosta. Côté français, Joan Zarco a réussi à rentrer dans les plombs en se classant 9e, tandis que Fabio Quartararo a fini 11e. Notez que c'est Fabio Di Gianantonio qui avait signé la pole position en vue de la course demain, alors que les tricolores Zarco et Quartararo s'élanceront respectivement des 15e et 16e places sur la grille de départ. Le Grand Prix des États-Unis de MotoGP sera à suivre demain, départ à 7h, heure de Nouméa.
Un mot de patinage artistique avec le couple Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron qui ont été sacrés champions du monde de la discipline. Les Français ont décroché ce sacre un mois après leur titre olympique à Milan Cortina. Pour leur dernier programme libre sur la musique du film Oscarisé The Whale. Ils se sont sublimés pour remporter haut la main cette couronne mondiale avec un total de 230,81 points. On passe au rugby avec le top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
On joue ce week-end la 20e journée du championnat de France.
Et on retiendra déjà que Toulouse, le leader du classement, a assuré l'essentiel en s'imposant face à Montpellier, deuxième du championnat de France. Score final 45-29, 16 points d'écart. Les Toulousains manquent toutefois le bonus offensif dans les autres rencontres. Castres l'a emporté avec le bonus offensif cette fois face à Montauban, la lanterne rouge, 49-17. Très bonne opération également de l'Union Bordeaux-Bègles qui l'a emporté sur la pelouse de Lyon, 21-17, une semaine après avoir eu le scalp de Toulouse. Le Racing 92, de son côté, s'est effondré dans les toutes dernières minutes de la rencontre face à Pau pour s'incliner 27-17. Perpignan l'a emporté à domicile au terme d'un match sous tension contre le RC Toulon, 36-20. Enfin, Bayonne a dominé La Rochelle sur le score de 26-15. Demain matin, il restera encore un choc à suivre. Le Stade français sera opposé à Clermont.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
L'actualité sportive en Calédonie, du badminton avec la coupe Arias Pacta de l'AS Magenta qui se dispute tout le week-end à la salle Omnisport de Lanzvata.
Une mobilisation des joueuses et des joueurs pour cette compétition qui se déroule sur deux jours avec, pour les meilleurs, les Jeux du Pacifique de 2027 en ligne de mire. Ryan Nagle est le président de la section badminton de l'AS Magenta. Il est également responsable de la commission sportive à la Ligue calédonienne de badminton.
C'est un gros tournoi. Il y a quand même plus de 115 joueurs, entre 220 et 230 matchs qui sont joués dans le week-end, donc on a quand même une très très forte participation du territoire. Il y a 8, 9, 10 clubs qui sont présents ce week-end pour toute cette partie des Jeux pour 2027 au niveau de la Ligue de badminton. Donc on regarde principalement tous les tournois. On commence à regarder depuis l'année dernière où on a monté la présélection et là on continue à regarder toutes les performances de nos joueurs. Il va falloir se battre parce qu'effectivement les anciens sont toujours présents. On est encore et on ne se laissera pas déloger si facilement.
Et on signalera notamment déjà la victoire de Morgan Patio dans le tableau individuel messieurs hier. Des matchs qui se poursuivent ce dimanche encore. Ça se passe donc à la salle Omnisport de Lanzvata.
Enfin, Mickaël, un coup d'œil au reste des résultats du week-end.
Du football avec un match en retard de la première journée de Super League. L'AS Magenta qui a battu hier l'AS Cougny sur le score de 1-0. Le club du Mont d'Or de tennis de table organisait de son côté sa coupe d'ouverture Raymond Sens à Boulary. En l'absence de Jérémy Day, parti à la Coupe du monde de tennis de table avec Maïlys Giray et Jérôme Morisseau qui a quitté le territoire. La division phare, celle des Open Mixed, a vu le grand retour de Laurent Sens qui termine en première position. Du VTT avec le CS Bourail qui a organisé le Grand Prix de l'Aigle Roblin au départ de l'Auberge du Pêcheur. La victoire est revenue à Alix Dudouay devant Jonathan Berger et Chris Jenner. Sandra Algueral a fini meilleure féminine devant Jessica Bélanguez. Enzo Berger s'est imposé chez les moins de 15 ans.